On est en 2 Corinthiens. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est un peu intéressant dans le sens que ça touche vraiment à tout le monde. On va parler de l'espérance. Et l'espérance au milieu de l'épreuve. Justement, est-ce que, pour retourner à notre quiz, quelqu'un qui a connu une petite épreuve, même cette semaine? Je suis le seul? Ok. Super, donc, on est en bonne compagnie. Oui, effectivement, je pense que c'est assez global, hein? Tout le monde en connaît. Mais, est-ce qu'on garde toujours l'espérance en vue? Ça, c'est toute une autre question qui est assez importante. Alors, pour cela, j'aimerais commencer avec une définition du mot espérance. Pourquoi? Parce que c'est assez différent de ce que le monde appelle espérance et ce que nous appelons espérance. Bon, selon le Robert, c'est le sentiment, donc sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. D'abord, le premier mot qui doit sauter aux yeux, c'est sentiment. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un sentiment, c'est plus profond. Mais aussi, un autre mot doit aussi, peut-être, en pensant à la Bible, va aussi peut-être vous piquer. Probable, oui. Voilà, la prof de française. Oui, exactement. Probable, mais dans le monde, oui, absolument. Une espérance, oui. Voilà, j'espère qu'il fasse beau. Oui, bon, peut-être. J'espère que la France va gagner la Coupe du Monde. Est-ce que c'est probable? Non. Alors que, qu'est-ce qu'on peut dire dans la foi chrétienne? En Christ, c'est différent. C'est plutôt un mariage de l'intelligence et de la foi. Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir la foi chrétienne sans l'intelligence. Les deux vont tellement ensemble. Et cette intelligence, cette foi, est soutenue dans une transformation spirituelle. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui anime ce mariage. Et ça, c'est notre foi. Ce n'est pas quelque chose qui est là devant les yeux, mais ce n'est pas probable non plus. Ça va arriver. La différence, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Alors, avec ça en tête, on entre justement dans notre texte. Paul, il nous montre comment ça marche. Quel est ce mariage entre l'intelligence et la foi? Ben d'abord, on verra son secret quand il était vraiment au milieu de l'épreuve. Et puis, deuxièmement, on verra comment ça change son comportement. Allons-y. Alors, on est donc en 2 Corinthiens et notre première partie, je vais lire les versets 8 à 11. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et il nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Donc, l'espérance que Paul a trouvée quand il était plein dedans, quand les choses sont devenues très, très difficiles. La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il y a tout un arrière-plan qui se passe, qu'on ne peut pas revenir dessus parce que c'est tellement compliqué. Mais dans le passage-là, nous voyons très facilement qu'il était dans une situation dangereuse, très dangereuse. Et en fait, le mot qu'il utilise, accablé, est très intéressant parce que ce n'est pas juste être accablé de façon physique, c'est-à-dire on a quelque chose sur le dos, un fardeau physique ou même de la santé qui fait en sorte qu'on est empêché, on souffre, c'est plus que cela même. C'est en réalité, enfin, ils ne disent pas leur époque, mais notre époque, on dirait, psychologique. En fait, on peut même traduire le mot par anxiété, ou bien désespoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup justement qui va dans ce sens-là. Certains qui vont jusqu'à dire que Paul était dans la déprime. C'est un peu fort, je trouve, hein. Mais qu'il soit anxieux, qu'il soit accablé, désespéré pendant un moment, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que Paul souffrait beaucoup. Et que même s'il était apôtre, ça ne lui épargne pas non plus de quelque chose d'assez difficile à gérer. Et là encore, quand on voit ces choses-là, on se dit, mais wow, quel bon livre pour 2022, n'est-ce pas? Avec tout ce qui se passe. De savoir que l'apôtre Paul a aussi traversé des épreuves graves comme nous. Alors, quel était son espoir? Comment est-ce qu'il s'en sort? Ben, quelle que soit la situation, sachant qu'il craignait la mort, ou même qu'il devait accepter la possibilité qu'il ne survive pas, justement, est-ce que quelqu'un a connu cette situation parmi nous? Enfin, on vit quand même une vie assez tranquille ici, à Paris, malgré tout. Mais pas tous. Et c'est là où nous pouvons, je pense, comprendre. Quelle que soit cette situation, si quelqu'un a connu l'anxiété, si quelqu'un a connu la peur, Paul, il nous parle. Il désespérait tellement, il dit, tellement que seulement Dieu pouvait le soulager. Même pas son favori nourriture, son plat favori, enfin rien, même pas quelqu'un, non, Dieu, mais le Dieu de la résurrection. Plus précisément, la résurrection. Et quelle beauté, parce que là, on a le texte qui nous dit la question suivante. Paul, quand tout va mal, vraiment Paul, quand tout va absolument mal et tu n'as plus d'espérance, que fais-tu? Quel est ton soutien? Comment tu t'en sors? Et là, il le dit. Il est dit. C'est par le Dieu de la résurrection. La résurrection. Et ça, c'est intéressant parce que de nos jours, c'est pas ça, n'est-ce pas? Enfin, est-ce que vous connaissez quelqu'un, même dans l'église, quand tout va mal, qui dit, bah, pour moi, c'est la résurrection. Mais pourquoi? Pendant longtemps, dans l'église, ça a été toujours ça. En fait, c'est aussi vieux que Job dans l'Ancien Testament. Et là, je trouve fascinant parce que ce que Job nous apprend, donc en Job 19, verset 25, Job nous apprend que là, quand on perd tout, ses enfants, ses richesses, sa santé, quand on est vraiment au fond du trou, voilà ce qu'il dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Là, ça célèbre, mais qui nous donne parfaitement son espérance. C'est pas juste le fait que son corps sera à nouveau renouvelé pour qu'il puisse voir de ses yeux, mais c'est plutôt ce qu'il voit de ses yeux, son Rédempteur, qu'il est vivant et qu'il sera avec lui. C'est sa présence, c'est le fait qu'il soit là devant lui. Là encore, on a une espérance, mariage, donc c'est intellectuel, c'est quelque chose qu'il connaît, hein, assez poussé quand même dans la réflexion, mais il y a la foi aussi, toute soutenue dans le Saint-Esprit. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que cette résurrection est si importante? Parce que c'est la fin de la corruption. La corruption dans tous ses sens. Corruption physique, donc le corps, mais aussi psychologique, donc la maladie, ou bien aussi sociale, les injustices, politiques. Il y aura un seul roi, le roi des rois, dans tous les niveaux. Fin de la corruption. Et aussi la fin de l'emprise du péché. Il n'y aura plus de péché en nous. Alors, le problème, je crois que pour notre monde, surtout aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un pays laïque, oui. Je ne vous apprends rien. République, c'est la voix du peuple. Hein, donc, et le peuple est très majoritairement pas chrétien. En plus, on dirait presque athée. Alors, ce monde athée, qui n'a pas un sens de la vie, pas comme nous, il faut qu'il le crée. Donc on a vu ça la semaine dernière. Donc, ce n'est pas juste dans ces philosophies qu'ils doivent créer quelque chose, mais ils doivent créer quand même un sens de la vie dans leur famille, dans leur travail. Mais il y a aussi un autre mouvement qui est très preneur dans notre monde, qui est le transhumanisme. Hein? Cette idée qu'on doit, par nos technologies, par notre progrès, créer quelque chose ici pour combler tous les problèmes qu'on a. Comme Elon Musk ou les autres. L'idée, c'est quoi? C'est la fin de la maladie. C'est la fin des inégalités par nos technologies. C'est même la fin de les problèmes climatiques, tout par la technologie. Quelque part, c'est créer un Éden par nos propres forces, n'est-ce pas? Et ce n'est pas quelque chose qui est fait dans le coin, enfin, c'est partout. Et c'est pour cela que très souvent, on a une mentalité très humaine, très moderne, très occidentale, que je n'ai pas besoin de Dieu parce que je peux créer mon paradis, ma vie, ici. Alors, j'ai trouvé cette citation que je trouve super. Ils disent, c'est Yannick Imbert qui dit, en fait, le transhumanisme dit, être humain, c'est mourir. Alors, refusons la tyrannie. Mais le chrétien peut dire amen à cette idée. Parce que le seul espoir de vaincre la mort, c'est cette phrase de la Bible. C'est « Ô mort, où est ton aiguillon ?» C'est la résurrection dont il parle. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et donc, on a une espérance dans la souffrance qui est au-delà de la mort. C'est en Christ. Vous voyez, nous avons une réponse dans la résurrection, même à cette quête. Parce que nous savons, et c'est ça ce qui est tragique, que même Elon Musk, un jour il va mourir, n'est-ce pas? Un jour, il va tomber malade. Un jour, aussi triste que c'est, notre portable va être jeté. Ouais. Mais c'est pas ça notre espérance. C'est pas ça ce qui nous compte, qui compte le plus. C'est plutôt cette résurrection. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est perdu en Christ. Et voilà comment Paul a trouvé pied dans la difficulté, en se confiant en Dieu. C'est aussi ce que nous avons à retenir dans les moments de détresse et d'anxiété. L'anxiété est quand même quelque chose d'assez important dans notre monde. Gérer le stress, il y a pas mal de façons de le faire. Mais en dessous de toute méthode que vous prenez pour justement gérer votre stress et l'anxiété, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette espérance puissamment ancrée au fond de vous. Vous connaissez peut-être Dietrich Bonhoeffer, le pasteur allemand qui a été condamné par les nazis et qui a été mis à mort juste quelques semaines avant la fin de la guerre. Alors, ce pasteur, pendant son emprisonnement, il était reconnu, même par les gardes, donc les nazis, comme un homme tellement paisible. Et qu'il apportait une certaine paix et tranquillité au sein même de son cellule et auprès des autres prisonniers. Mais ce qui a frappé tout le monde, c'était ce qu'il a dit juste avant son exécution. Il dit, c'est la fin. Mais pour moi, ce n'est que le commencement. C'est la fin. Mais pour moi, ce n'est que le commencement. Et ça, c'est pas juste une forme d'évasion. Ça, c'est l'espérance chrétienne. C'est plutôt cette réalité ancrée dans notre cœur qui nous aide à voir les choses différemment. D'avoir du courage quand les autres ne l'ont pas. Pas pour se montrer, mais pour les aider. Parce que c'est ça le vrai courage. Le vrai courage, ce n'est pas juste tenir bon et avoir le visage ferme et foncer. Le courage, c'est d'être suffisamment fort pour tenir, enfin pour tendre la main vers l'autre et l'aider dans la souffrance quand toi tu souffres toi aussi. En fait, un autre bel exemple de cette même chose, c'est le prophète Jérémie. Jérémie qui a prophétisé pendant longtemps la destruction de Jérusalem, mais personne ne l'écoutait. Déjà, si vous êtes maman, vous reconnaissez justement le sentiment de dire 10 000 fois la même chose sans que personne ne vous écoute. Jérémie aussi connaît ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La chose arrive. Et le livre de Lamentations est écrit justement dans les décombres, dans des rues, avec toujours des cadavres, de la fumée, des atrocités de la guerre autour de lui. Et ce que Jérémie a pu écrire, c'est ceci. En fait, ça commence en verset 21. Lamentations 3, verset 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. » Ce mot encore. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grand est ta fidélité. Ça, c'est notre espérance. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver sa bonté, même quand on est au milieu de l'épreuve. Alors, voilà. voilà ce qu'il a trouvé. Alors, deuxièmement, maintenant, on doit se poser la question, si c'est ça, le visage de l'espérance, comment est-ce que elle se comporte dans la vie? Et justement, Paul, il répond à cette question aussi. Donc, on revient en 2 Corinthiens, chapitre 1. Et là, Paul, il nous dit, il répond à cette question. Voilà comment elle se comporte. Donc, notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, vous connaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire et vous le nôtre au jour de notre Seigneur Jésus. Donc, il parle d'une conscience pure. Et combien c'est important. Je pense que nous avons tous entendu cette phrase de la part de quelqu'un qui voulait faire quelque chose que tout le monde sait et tout à fait en dehors de ce que le Seigneur demande. Par exemple, oui, je veux absolument entrer dans cette relation illicite. J'ai ressenti une paix. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Oui, je sais que c'est pas bien, mais j'ai ressenti une paix. Attention, parce que là, ce n'est pas la paix qui vient de Dieu, parce que Dieu ne va jamais contredire sa parole. Là, c'est une construction psychologique que vous vous êtes fait. Ça, c'est plutôt la confiance que quelqu'un fait, ou surtout, je pense, à certains étudiants qui le font, qu'ils veulent se convaincre qu'ils ont bien étudié pour leurs examens 3 minutes avant qu'ils le plantent. Oui, bien sûr, je n'ai pas étudié, mais je sais que je connais ces choses. Je suis confiant. C'est le même genre de choses, hein? Non, Paul, ce qu'il dit est un peu différent. Là, c'est plutôt l'idée d'une conscience qui suit les faits. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, donc, qui, il a fait du bien, et ne se laisse pas troubler par les accusations des autres. C'est-à-dire, sa conscience suit les faits. En fait, on revient à ce qu'on a dit il y a quelques semaines sur la différenciation. Cette idée que je reste moi-même, malgré les influences et les pressions du monde et des autres. Je sais ce qui est vrai. Donc, je continue dans cette direction. Même si tout le monde dit que c'est faux, je sais ce que je sais parce que Dieu est vrai. Donc, ce qu'il dit là est très, très, très fort et important pour nous. Et c'est comme ça que l'espérance se comporte dans le monde. Et dans la vie, avec tranquillité. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera de votre côté. Parfois, c'est même le contraire, que tout le monde ne sera pas de votre côté. Mais est-ce que vous allez garder votre espérance dans ces moments-là? C'est ça l'épreuve de la foi. Et ça revient donc à qui il est dans les épreuves. Surtout quand tout va mal. Et puis, il y a les piqûres, certainement envoyées par la fosse de l'enfer. Est-ce que vous allez renvoyer la balle? Ces petits mots qui qui sont assez piquantes et à vrai dire assez satisfaisantes à dire, mais ça revient toujours sur vous. Donc ça revient toujours à refroidir les relations. Et c'est pas comme ça que Christ a fait. C'est pour ça justement qu'on doit, par la grâce de Dieu, ne pas le faire. Ou bien, pour dire comme Paul a dit, Romains 12, verset 21, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Parce que cette perspective éternelle, ça nous aide à viser le bien, même quand on nous rend le mal. C'est pourquoi Paul, il doit aussi évoquer le retour de Christ. C'est le moment où, enfin, on va comprendre. Et on va comprendre les choses que nous ne pouvons pas encore comprendre. Comme Christ a dit, les secrets des cœurs seront dévoilés. Justement, nous avons des limites à ce que nous pouvons comprendre nous-mêmes. Parce que les raisons derrière les décisions que les gens font, c'est assez complexe. C'est jamais aussi net qu'on voit dans un film américain. Ça, c'est la différence entre un film américain et un film français, généralement. Et c'est pour ça que ça vend très bien aux États-Unis, parce que c'est deux-dimensionnel, c'est hyper facile à suivre, et toujours, le gagnant, c'est le rock, ou enfin, quelqu'un de très costaud et beau et parfait. Bon, les films français, c'est un petit peu différent, Là, on est vraiment dans les psychologies et c'est pas toujours le meilleur qui est perdant. Un peu comme la vie, n'est-ce pas? Sauf, je vous rappelle, de notre espérance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que c'est mal pour un chrétien de juger le cœur et les motivations du cœur. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Oui, on peut discerner les actions. Parce que là, c'est visible pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui est toujours en retard, on peut déduire, ah ouais, c'est quand même quelqu'un qui a un problème avec la ponctualité. C'est assez discerné. Ça peut aller plus loin. Il y a discernement des esprits qui est quand même un don de l'esprit. Mais c'est quand on est dans ce langage jugement, tu es toujours comme... Ah, là, c'est péché. On est allé trop loin. Là, on est en train de juger le cœur. Seulement, quelque chose que Dieu peut le faire. Et ce n'est pas à nous ça. Quand on est tenté d'aller comme cela, ça doit être quelque part en alarme. On doit prendre notre recul. Et je ne dis pas d'ailleurs que j'ai gagné la bataille là, je prêche à moi-même. On doit apprendre à prendre le recul, savoir que seulement Dieu est juge et prie pour la personne. C'est ce que Christ nous a demandé de faire, n'est-ce pas? Priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Si nous remettons tout à la lumière donc, de cette résurrection, nous trouvons... Donc, pas juste une espérance, mais une ligne de conduite dans cette vie qui nous porte même dans ces moments difficiles. Et c'est assez purificatrice. En fait, l'apôtre Jean en a parlé. Et là, on a le passage en 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Si on garde ça, quelque part dans notre agenda, si vous voulez, dans notre mentalité, il y a quand même quelque chose de purificatrice en celui qui garde au fond l'idée que à n'importe quel moment, Christ peut revenir et que nous ne sommes pas destinés pour ce monde. Et voilà pourquoi Paul, il revient toujours sur cette idée. Le jour du Seigneur, tout sera révélé. Le jour du Seigneur, tu sauras enfin qui je suis et qui vous êtes. Enfin, en conclusion, on a parlé de cette espérance au milieu de l'épreuve. Parce que c'est une consolation pour nous. C'est une consolation que nous recevons de Dieu, mais pas juste pour garder pour nous-mêmes. C'est lui qui maîtrise bien cette espérance et quelqu'un qui aide les autres. Toujours. Et l'espérance est quelque chose qu'on devrait partager aux autres. Peut-être pas dans autant de mots que ça, mais surtout dans notre comportement. Parce que ce n'est pas à garder pour nous-mêmes, mais c'est à partager. C'est pour être vu et vécu dans la vie publique. Alors, quelle est notre motivation? Comment faire? Il n'y a que la grâce de Dieu. Et donc, ça doit toujours commencer avec nos pensées, n'est-ce pas? Parce que si les pensées suivent, le corps va suivre. Alors, peut-être, c'est juste une suggestion, hein? Peut-être c'est le moment, si vous n'avez pas encore fait, de revenir sur quelques passages clés. Notamment le psaume 16, le psaume de la résurrection. Ou bien 1 Corinthiens 15. Quand était la dernière fois que vous avez lu ce passage? Ô mort, où est ton aiguillon? Ou bien Jean 20. Oui, mais c'est l'époque de Noël. Oui, ok, mais on peut toujours parler de la résurrection pendant Noël. Et si cette pensée alimente nos prières et nos actions, je pense que c'est ça qui va donner encore plus quand nous prions que ton règne vienne, qui nous donne cette soif de voir ce royaume. Et c'est ça qui va donner le courage à notre cœur, un courage suffisamment fort pour encourager, donc donner le courage aux autres. Amen. Prions.